VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 15 décembre 2015. Au sommaire ce soir...
Violence en RCA, le gouvernement demande à la communauté internationale de sévir contre les fauteurs de troubles.
Le gouvernement de transition demeure préoccupé par la libre circulation des terroristes comme Noureddin Adam, Haroun Gueye, Tidiane, Abdoulaye Hissène, Edouard Ngaïsona, Koudémo Olivier alias Gbangouma et autres.
Le Burundi, menacé par la guerre civile, les tensions ont atteint un point de rupture selon un haut responsable onusien.
Cri d'alarme au Bénin, les violences contre les femmes prennent une proportion inquiétante.
Quand j'entends cette phrase, je reçois toujours un choc parce que c'est la pire des choses qui peut exister. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut frapper une femme.
Nucléaire iranien, l'agence atomique de l'ONU clôt le dossier des activités passées de Téhéran.
Politique américaine, Donald Trump, maître dans les sondages à l'échelle nationale, affronte ce soir plusieurs autres candidats dans le dernier débat de l'année à Las Vegas.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
République centrafricaine. Alors que les résultats provisoires du référendum constitutionnel sont attendus au plus tard le 18 décembre, le gouvernement de la transition appelle les forces internationales à mettre hors d'état de nuire les principaux responsables de violences. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Dans un communiqué, le ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Pagendi, a traité de terroristes les responsables des violences qui ont émaillé le vote référendaire à travers le pays.
Le gouvernement de transition demeure préoccupé par la libre circulation des terroristes comme Noureddin Adam, Haroun Gueye, Tidiane, Abdoulaye Hissène, Edouard Ngaïsona, Koudémo Olivier alias Gbangouma et autres, tous auteurs à répétition d'actes de violence.
Le gouvernement exhorte les forces de sécurité intérieure, la MINUSCA et Sangaris, à mettre hors d'état de nuire les personnes citées. Entre-temps, l'autorité nationale des élections annonce que les premiers résultats du référendum constitutionnel sont attendus le 18 décembre prochain. Après une opération de ses forces ce mardi contre le FPRC Ndélé au nord-est, la MINUSCA a mis en garde tout groupe armé qui tenterait de perturber la paix et empêcher la poursuite du processus électoral sur l'ensemble du territoire centrafricain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'Iran a officiellement protesté auprès du Nigeria après l'assaut de l'armée nigériane contre des chiites à Zaria. Georges Léonard Seigneau.
Le chargé d'affaires du Nigeria à Téhéran a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères qui exige que lumière soit faite sur les violences à Zaria. Mohamed Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, a téléphoné à son homologue nigérian, Jeffrey Onyema, pour exiger une action immédiate et sérieuse pour éviter la violence contre les chiites. Ce week-end, l'armée nigériane a lancé un assaut à Zaria contre des militants du mouvement islamique du Nigeria, accusé d'avoir tenté d'assassiner le chef d'état-major des armées. L'armée a détruit une mosquée et la maison du chef du mouvement, le cheikh Ibrahim Jacques Zaki, qui milite pour l'instauration d'une république islamique à l'iranienne. Le cheikh Jacques Zaki a déjà été emprisonné à plusieurs reprises. L'assaut aurait fait plusieurs victimes, mais aucun bilan précis n'a été donné. L'armée a fait état dimanche de pertes humaines.
Le Burundi semble avoir franchi un pas de plus vers la guerre civile. Tels sont les propos du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Zeid Raad al-Hussein juge très alarmante la situation au Burundi. Il faut dire que près de 90 personnes ont été tuées vendredi, pendant et après des attaques coordonnées contre trois camps militaires, selon un bilan de l'armée. Les tensions ont atteint à présent leur point de rupture à Bujumbura, a encore indiqué le haut-commissaire, cité par sa porte-parole. Il a aussi lancé un appel à toutes les parties prenantes afin qu'elles prennent toutes les mesures pour mettre fin à cette escalade de la mort et pour engager un dialogue sensé et inclusif.
Burundi toujours, du nouveau sur le procès de 28 militaires et policiers burundais accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État en mai. L'avocat belge Bernard Minguin, qui défend le général Dayirou Kiye, est lui-même poursuivi par la justice burundaise dans cette affaire, a appris aujourd'hui l'AFP de sources concordantes. Pendant le procès, le parquet a confirmé que je faisais l'objet de poursuites et qu'il était donc impossible que j'intervienne dans le dossier. et j'ai un dossier contre moi pour complicité dans le putsch. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, a déclaré l'avocat belge à l'AFP.
Dans le nord du Mali, le poste de sécurité de Bamba, à quelques 200 km au nord de Gao, a été attaqué par des hommes en armes à bord d'un véhicule. Bilan, 2 soldats maliens blessés.
Soudan du Sud, cela fait 2 ans que le pays est en guerre civile. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à cette occasion le mandat de sa mission sur place, la MINUS. Les effectifs ont été renforcés par quelques 600 policiers et 500 soldats, de même que les moyens d'action. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
La conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'est ouverte à Nairobi. Elle est perçue comme la rencontre de la dernière chance pour sauver le cycle de Doha dans l'impasse depuis 14 ans. Idriss Fall.
La conférence de l'OMC qui se tient jusqu'à vendredi est une première sur le continent africain. Les représentants de 162 pays membres restent profondément divisés. Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC, a même admis fin novembre qu'aucun progrès n'a été enregistré dans les discussions préparatoires. Le pessimisme était de mise à l'ouverture. Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée du commerce mondial, a estimé que la réunion de Nairobi est vitale pour l'avenir de l'OMC. À Bali, en 2013, les ministres étaient arrivés in extremis à un accord douanier pour relancer le commerce mondial. 2 ans après, ils se retrouvent dans la capitale kényane pour tenter de sortir de l'impasse, le cycle de Doha, lancé en 2001 au Qatar. Les ministres devront également plancher sur le sujet controversé des subventions agricoles et de l'accès au marché pour les pays les moins avancés. Hôte de la conférence, le président Uhuru Kenyatta a estimé que ces subventions faussent le commerce, de même qu'elles nuisent à l'agriculture et à l'industrie africaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les principaux candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016 auront leur 5e et dernier débat de l'année ce soir à Las Vegas, dans le Nevada. Le milliardaire Donald Trump reste le favori. Il a même amélioré son score dans les sondages malgré ses dernières déclarations controversées sur la fermeture temporaire des frontières américaines aux musulmans. Idrissa Sédoudia fait le point.
Si cette idée a été dénoncée par une majorité d'Américains et les appareils politiques du pays, elle a été applaudie par une majorité d'électeurs républicains, 59% selon un sondage Washington Post ABC publié aujourd'hui, et qui le crédite de 38% des intentions de vote des républicains. C'est différent dans l'Iowa, où aura lieu la première consultation électorale en 2016. Le sénateur Ted Cruz y est en tête, dépassant le neurochirurgien Ben Carson, qui continue sa chute libre dans les sondages. Donald Trump a été accusé d'exploiter à des fins politiques les attaques terroristes du 13 novembre à Paris et du 2 décembre à San Bernardino, en Californie. Nous vivons dans la peur. Je ne crée pas la peur. Les gens vivent dans la peur. Le sénateur Cruz refusait de condamner Trump. Ce n'est plus le cas. Et étant donné que ce dernier est maintenant favori dans l'Iowa, il faut s'attendre à ce qu'il soit désormais la cible des flèches du milliardaire.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a formellement refermé ce mardi le dossier concernant la dimension militaire passée du programme nucléaire iranien. Une résolution adoptée par l'exécutif de l'agence, comptant 35 pays, a pris acte aujourd'hui du fait que l'enquête de l'AIEA avait été menée selon le calendrier convenu, ce qui met fin à l'examen de ce sujet par l'agence. Cette étape était prévue par la feuille de route adoptée en juillet dans le cadre de négociations pour solder le dossier nucléaire iranien. L'AIEA a récemment publié un rapport indiquant qu'il n'y a pas de signe crédible que les efforts de l'Iran pour construire une arme nucléaire ont duré au-delà de 2009.
Le président russe Vladimir Poutine recevait ce mardi soir au Kremlin le secrétaire d'État américain John Kerry pour entendre les propositions américaines visant à progresser dans le règlement du conflit syrien. La rencontre entre messieurs Kerry et Poutine a été précédée par 3 heures d'entretien entre le secrétaire d'État américain et son homologue russe. Washington et Moscou doivent décider formellement de l'organisation, très probable mais pas encore confirmée, d'une une nouvelle réunion internationale vendredi à New York entre pays soutenant l'opposition syrienne et ceux qui appuient le régime syrien.
Au moins 34 civils ont péri aujourd'hui lors de raids menés par des avions présumés russes contre des marchés dans deux localités du nord de la Syrie. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Au moins 7 civils ont été tués ce mardi au Yémen par des bombardements des rebelles chiites, malgré la trêve entrée en vigueur pour favoriser les pourparlers de paix en Suisse, selon une source médicale et des témoins cités par l'AFP.
Le Pakistan a procédé à son second tir d'essai de missiles balistiques en 4 jours et ce moins d'une semaine après l'annonce de la reprise des pourparlers de paix avec l'Inde.
En Californie, toutes les écoles de la région de Los Angeles ont fermé leurs portes ce mardi, dû à une menace d'attaque. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Ghana a désormais une marque automobile entièrement fabriquée localement. Les 4x4 Kantanka Made in Ghana sont officiellement sur le marché depuis ce mois de décembre. La gamme déjà lancée en deux versions, pick-up ou SUV, coûte de 16 500 à 32 000 euros. La calandre porte une étoile à 5 branches argentées. Le logo de la marque est symbole du Ghana. À l'intérieur, le tableau de bord est décoré de boiseries provenant de forêts ghanéennes et les sièges en cuir crème sont fabriqués à Kumasi, dans le centre du pays. L'année prochaine, le créateur compte fabriquer des berlines plus abordables pour le marché local, mais aussi produire des cars et des minibus. L'enlèvement de la saisie de l'avion luxueusement aménagé et érigé en symbole de l'outrance du chef de la révolution libyenne Mouammar Kadhafi, prononcé par la justice française fin novembre, a été attaqué en appel. En 2006, le groupe Al-Karafi avait signé un contrat avec Kadhafi pour la construction d'une station balnéaire sur la Méditerranée qu'elle devait exploiter pendant 90 ans. Mais en 2010, Tripoli avait unilatéralement résilié la concession. Enfin, les autorités américaines menacent de punir les banques américaines JP Morgan, Bank of America et Citigroup, les Suisses Crédit Suisse et UBS, ainsi que le britannique HSBC et Standard Chartered, poursuivis pour ne pas avoir signalé des activités suspectes sur des comptes liés à la FIFA au cœur d'un scandale de corruption, indique le Financial Times.
Merci Eric Manirakiza.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Après la déception, le tout-puissant Mazembe espère se consoler à la Coupe du Monde des clubs.
Sèchement battu 3-0 par Hiroshima, les Corbeaux de Lubumbashi joueront la nuit prochaine le match pour la 5e place. Les Congolais affronteront les Mexicains du club América.
La CAF a dévoilé la liste complète des nommés pour les trophées annuels.
Les trophées seront remis le 7 janvier prochain à Abuja. Pour le meilleur joueur africain, sont nommés André Ayou, le Ghanéen de Swansea City, Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais du Borussia Dortmund et surtout Yaya Touré, le grand favori, le joueur ivoirien de Manchester City. Quant au joueur africain de l'année basé en Afrique, Bagdad Bouneja d'Algérie, l'étoile du Sahel, Mbwena Ali Samata, le Tanzanien du tout-puissant Mazembe et un autre joueur du club de Lubumbashi, Robert Kidiaba. Pour la joueuse africaine de l'année, Gabrielle Ongene du Cameroun, sa compatriote Gaëlle Nganamuit, Ngozi Ebere du Nigeria, Nrei Tante Inès de Côte d'Ivoire et enfin Portia Boakye du Ghana. Pour l'entraîneur de l'année, le Malien Baïba, qui a mené les juniors maliens. Également Emmanuel Amunike, le Nigérian, dans la même catégorie. Fawzi Benzarti, de l'étoile sportive du Sahel. Hervé Renard, de Côte d'Ivoire. Et Patrice Carteron, du tout-puissant Mazembe. Enfin, le club de l'année, l'USM Alger, le tout-puissant Mazembe. Orlando Pirates et l'étoile sportive du Sahel. Réponse le 7 janvier prochain.
La NBA, championnat nord-américain de basketball.
Les Spurs de San Antonio réalisent une première partie de saison impressionnante. Ils sont toujours invaincus à domicile après avoir écrasé Utah 118 à 81. Dans la conférence Est, le duel entre Indiana et Toronto a tourné en faveur des Pacers, vainqueurs 106 à 90 de leur 14e match cette saison. Cette défaite de Toronto a permis à Chicago, facile vainqueur de Philadelphie 115 à 96, de repasser à la deuxième place de la conférence Est. Atlanta va mal. Les Hawks se sont lourdement inclinés à domicile face à Miami 100 à 88. Ils ont perdu 11 de leurs 18 derniers matchs.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Cameroun.
Lutte contre les islamistes nigérians de Boko Haram. Les autorités camerounaises exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense. En collaboration avec les forces de sécurité, ces groupes ont intercepté et tué deux jeunes filles kamikazes cette semaine dans une zone frontalière. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
Boubakari Alioum vit à Amchide, localité à cheval sur la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a deux ans, des militants de Boko Haram y ont tué 30 personnes, dont le père d'Alioum, ce qui a poussé ce jeune commerçant à se joindre à une milice d'autodéfense.
Il y a une équipe qui travaille en journée, c'est-à-dire à des zones, dans les zones montagneuses, comme le Maïs Benagaraï, et puis une autre équipe qui prend la relève la nuit. Généralement, à distance, ils essayent de repérer. Ils se rendent compte que les gars qui avancent ont des explosifs. Dans les villages aussi, ils font des patrouilles.
La secte islamiste nigériane a commencé ses incursions dans l'extrême nord du Cameroun vers la fin 2014. Depuis, elle a étendu ses attaques au Tchad et au Niger voisin. Au Cameroun, les militants s'en prennent aux civils, pillant et incendiant des villages. Ils plantent aussi des mines antipersonnelles et envoient leurs kamikazes attaquer les marchés et autres lieux publics. Mamoudou Hadji, leader communautaire d'Amchide, chargé de recruter des jeunes, assure qu'ils ont fait l'objet d'un triage rigoureux par crainte d'une infiltration des partisans de Boko Haram.
Bon, ils sont d'abord sélectionnés en fonction des qualités des personnes. On ne prend pas n'importe qui. C'est des gens de bonne foi qui ont un souci pour le village et pour le pays. Et c'est des gens qui sont restés au village, qui n'ont pas voyagé, mais qui sont bon compte de leur moralité, quoi. Comme ce qui s'était passé à Mokolo.
Après une brève formation par l'armée, les jeunes ont commencé des patrouilles. Enthousiastes, ils veulent en faire plus et demandent des motos et des vivres pour pouvoir étendre leurs opérations sur les collines à la frontière entre les deux pays. Le gouvernement camerounais a prévu de fonds dans son budget 2016 pour appuyer les milices d'autodéfense, a affirmé le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mijiawa Bakari. Il s'est toutefois refusé à fournir des détails.
J'ai saisi cette occasion pour saluer l'action ô combien brave composée des membres du comité de vigilance qui ont été mis sur pied, ce qu'ils ont fait et à saluer. Nous avons longuement sensibilisé les uns et les autres à l'effet d'apporter leur contribution à cette lutte. Cette partition a été entendue, elle est en train d'être jouée correctement. Les populations ont intégré cette donne. Donc nous demandons aux uns et aux autres de se mettre au pas. Donc le renseignement a une place très très importante, la dénonciation également.
La mission des milices d'autodéfense de l'extrême nord camerounais est des plus dangereuses. Selon le gouverneur Mijiawa Bakari, une dizaine de jeunes enrôlés ont péri dans des opérations cette année.
Jacques Aristide avec vous, un Washington Forum en deux temps ce jeudi. La Centrafrique d'abord. Après un référendum constitutionnel dans la violence, la RCA est-elle prête pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre ? Le Burundi ensuite, après l'attaque contre trois camps militaires qui a mené à l'opération de nettoyage du régime de Bujumbura, le Burundi est-il réduit à une répression aveugle et sanglante ? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Cela fait deux ans jour pour jour que le Soudan du Sud a replongé dans une guerre civile aux racines politico-ethniques, marquée par d'innombrables atrocités, de même que des implications régionales, dont celle de l'Ouganda. Deux factions, celle de Salva Kiir et celle de Riek Machar, s'opposent. Un accord de paix a été signé en août, mais sa mise en œuvre est à la fois lente et compliquée. Et la situation humanitaire, quant à elle, est jugée catastrophique. Pour faire un état des lieux à l'occasion de ce triste anniversaire, Jacques Aristide s'est entretenu avec Leslie Lefko de Human Rights Watch.
C'est vraiment un anniversaire triste pour la population civile de Soudan du Sud parce qu'aujourd'hui, après deux ans de conflit, on a près de 2 millions de personnes qui sont déplacées ou en Soudan du Sud ou dehors du pays. On a des combats qui continuent entre les forces des deux côtés. On a toujours les communautés qui sont menacées par le manque de nourriture, de services de soins. Alors c'est vraiment une situation complètement catastrophe. Et même avec un accord de paix qui a été signé en août, il y a toujours des combats qui continuent. Et ça paraît que les commandants des deux côtés, ils n'ont pas vraiment la volonté de faire attention aux besoins de leur population.
À l'occasion de ce triste anniversaire, votre organisation a donc publié un rapport sur le sort terrifiant des enfants soldats. Parlez-nous des grandes lignes du rapport.
Oui, le problème des enfants soldats, c'est pas une nouvelle chose au Soudan du Sud. On a vu, par exemple, dans la longue guerre civile au Soudan, qu'il y avait toujours des enfants soldats. On a aussi dans plusieurs traditions parmi les groupes ethniques de Soudan du Sud, les traditions de voir les enfants, particulièrement les garçons, qui jouent un rôle en défendant leur communauté. Ils jouent un rôle aussi à défendre les bétails. Alors, il y a des traditions comme ça, mais avec cette guerre, ces conflits, on voit aussi le recrutement est souvent forcé et l'utilisation d'enfants soldats dans les combats. L'agence UNICEF, ils estiment, par exemple, qu'il y a entre 15 000 ou 16 000 enfants qui étaient utilisés au sein des forces dans le conflit.
Très brièvement, quel est l'appel de Human Rights Watch aux belligérants, aussi bien qu'à la communauté internationale, pour qu'un terme soit mis à ce conflit?
Je pense que la chose peut-être la plus importante, il faut que tous les chefs et les commandants sur tous les côtés, ils soutiennent le fin de l'impunité.
Julie Lefko de l'ONG Human Rights Watch était jointe à Amsterdam.
Au Mali, l'hôtel Radisson Blu de Bamako, attaqué par des terroristes le 20 novembre 2015, a rouvert ses portes ce mardi 15 décembre. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État malien qui a fait un tour à l'intérieur de l'établissement afin de s'assurer que tout a été refait avec technicité et rapidité, nous dit Kassim Traoré.
25 jours ont suffi pour enlever les traces des balles, des vitres brisées ou encore redresser les portes tordues ou faire disparaître des odeurs d'armes. L'hôtel Radisson Blu de Bamako refait peau neuve en un temps record. Cela à la satisfaction de ses employés qui reprennent service à l'image de Moussa Traoré.
On souhaite à Allah aussi de nous protéger et Inch'Allah, on est prêt à se combattre pour travailler pour tous nos clients qui ont l'habitude de venir ici. Et pour le dispositif sécuritaire aussi, le Radisson a tout fait et on est dessus et on est prêt à se combattre pour que Radisson aille de l'avant.
À travers cette réouverture, on sent beaucoup de changements au niveau des dispositifs sécuritaires de l'hôtel. Parmi les mesures, on peut citer le déploiement des forces de sécurité, les scans des bagages et le système de vidéosurveillance.
Oui, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ceux qui ont perdu la vie au Radisson, ce acte barbarie ne va pas vaincre. Nous, on est prêts à le combattre jusqu'au bout. Et Radisson continuera toujours. Pour le changement, pour l'instant, on est en train de prendre les dispositifs sécuritaires. Et avec l'état, le président de la République vient de parler devant vous tout à l'heure, et toutes les dispositions sécuritaires avec le gouvernement, Inch'Allah, ça ira.
La direction de l'hôtel Radisson est plus que jamais déterminée à ne plus baisser les bras face à la barbarie dont elle a été victime le 20 novembre 2015. C'est une équipe requinquée avec à sa tête M. Gary qui reprend service.
Au moment de rouvrir nos portes, il est nullement question d'oublier. Ça serait indécent et impensable. Il faut se souvenir que malgré la peine et les difficultés, la vie suit son cours. Le monde continue de tourner et le fera avec ou sans nous. En ouvrant nos portes à nouveau, nous offrons un futur non seulement au Radisson Blu Bamako, mais également à notre humble niveau au Mali.
Le président de la République a visité les coins et recoins de l'hôtel qui avait été endommagé par la barbarie du 20 novembre dernier. Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît que tout est rentré dans l'ordre.
Nous voici en hôtel Radisson Blu Bamako, debout, remis à l'œuvre. Qui l'eût cru il y a qu'en nous rendant ici, nous fûmes horrifiés par le sang, par l'odeur du sang, par la haine récupérée encore quelque part. Aujourd'hui, que nous soyons ici en si grand nombre et en qualité pour dire combien nous sommes résolus à vaincre la haine et les porteurs de mort.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et nous partons maintenant au Bénin, où les violences contre les femmes prennent une proportion inquiétante. Le cas d'une femme battue a récemment relancé le débat. La trentaine à peine, son mari l'avait roué de coups parce qu'elle n'avait pas préparé le dîner à temps. L'image de son visage ensanglanté avait choqué le pays. La victime s'était ensuite opposé à ce qu'on emprisonne son mari. Bien des femmes subissent des violences en silence, en dépit des lois censées les protéger. De Cotonou, la correspondance de Ginette Fleur à Dandé.
Les violences faites aux femmes restent un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en République du Bénin, où plusieurs hommes continuent de lever la main sur leur conjointe pour une raison ou une autre. Selon les sondages, une femme sur quatre est battue chaque jour dans certaines régions du pays où les femmes sont ignorantes de la loi. Ces actes passent souvent sous silence, mais pour celles qui connaissent bien la loi et sa rigueur, les violences faites aux femmes restent une faute grave punie par la loi en vigueur.
Souvent, quand j'entends cette phrase, je reçois toujours un choc parce que c'est la pire des choses qui peut exister. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut frapper une femme. C'est pas bien du tout.
Peut-être que c'est la femme qui a tort et elle ne veut pas reconnaître son tort. Et voilà, quand le mari est énervé, il peut battre la femme. L'homme, quand il est énervé, il agit et c'est après il regrette. Donc c'est ça, c'est pas que je suis d'accord que les hommes battent leur femme.
Empêcher sa femme d'avancer, d'évoluer, de chercher à être elle-même, c'est une violence. Prenons les partis politiques de nos jours. On positionne que des hommes. Les femmes, on ne les aide pas à avancer. Ne pas respecter l'approche genre, c'est une violence faite aux femmes.
Dans certains cas, l'application de la loi devient chose difficile lorsque la femme victime de violence elle-même, après avoir porté plainte ou après avoir été défendue, n'est pas consentante du fait que son mari doive être jugé. Bon nombre de femmes préfèrent plutôt se faire battre que de voir leur mari en prison. Poids de la tradition et pesanteur sociologique oblige.
Nous sommes au 21e siècle, il faut oublier. Quand il te fait mal, quand il te tapait, il était fou. Alors là, il subit les conséquences. Je suis sûre qu'il ne va plus jamais reprendre, même si ce ne sera plus avec moi, avec d'autres femmes. Moi, je pense que les femmes, là, vraiment, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire, justement.
Quand vous avez un problème avec votre mari à la maison, il faut essayer de régler ça à l'amiable. Quand tu amènes ton mari, tu l'exposes en public, soit disant que tu es en train de le convoquer, et ainsi de suite, va pour des audiences comme ça là. Mais tu peux avoir raison n'importe comment, mais quand le mari il finit ses sanctions, il revient, peut-être qu'il va plus t'accepter. Parce que moi, en tant que femme, si tu m'amènes en audience, c'est qu'on n'a plus rien de commun.
Quand les femmes portent plainte, elles veulent peut-être qu'on demande à leur mari de ne plus le faire, en tout cas qu'on apporte d'autres solutions autres que l'emprisonnement.
Non aux violences faites aux femmes, à bord des affiches dans toutes les grandes villes du pays. Mais malgré les nombreuses sensibilisations, bien de femmes sont battues par des époux qui se découvre subitement un nouveau métier, celui de boxeur. De Cotonou, c'est notre fleur donnée pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci Georges, Léonard, Sagno et Zorniak à la technique. Ici chez Ruben Orsil et Morgane Guiriac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com 24h sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM.
Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.